Catherine Dutu est là pour le journal. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors que le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle dans la rue, l'exécutif dénonce des violences persistantes contre les forces de l'ordre et des agressions nauséabondes, notamment des gestes et des paroles antisémites contre une vieille dame dans le métro à Paris. Explication dès le début de ce journal.
Le bilan du tsunami en Indonésie s'élève désormais à 281 morts. Il pourrait s'alourdir. Les experts mettent en garde contre le risque de déferlement de nouvelles vagues dues à l'activité volcanique.
À la une encore, les États-Unis de Donald Trump inflexibles sur le mur à la frontière du Mexique. Fermeture partielle des administrations fédérales depuis ce week-end. C'est le shutdown, la politique du président américain dénoncée au cœur de la capitale fédérale Washington avec un hôtel pas tout à fait comme les autres. Nous en parlerons dans ce journal.
Et puis cela fait 40 ans, Catherine, que le marché chinois est ouvert. La mondialisation est passée par là. Quel bilan peut-on en tirer? On posera la question à François Bougon. Il est journaliste au Monde et spécialiste de l'Asie. Et ça sera dans une dizaine de minutes.
Ils ont tous deux affiché leur fermeté hier face au débordement de l'acte 6 des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a appelé au rétablissement de l'ordre quand Édouard Philippe, son premier ministre, a lui condamné une violence inouïe et des gestes antisémites. Il vise notamment l'incident filmé et diffusé en boucle sur les chaînes d'information en continu, montrant des motards de police pris à partie aux Champs-Élysées samedi et dont l'un d'eux dégaine brièvement son arme. Et puis, une enquête a été ouverte sur des propos antisémites tenus par des hommes portant des Gilets jaunes samedi soir dans le métro à Paris. Ces hommes ont agressé verbalement une vieille dame qui leur reprochait de faire le geste de la quenelle, référence au salut nazi, un geste popularisé par Dieudonné, condamné lui en 2017 pour des propos antisémites. Un journaliste de 20 minutes a assisté à la scène samedi soir dans le métro à Paris alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne. Sidéré, il a raconté ce qu'il a vu sur Twitter et à Charlotte de Rouen.
Thibaut Chevillard monte dans le métro à la station Réaumur-Sébastopol vers 23h. À l'intérieur de la rame, il remarque trois hommes, visiblement éméchés, qui portent des gilets jaunes. Écrit Macron démission, mais très vite, les choses dérapent.
Ils sont mis à faire des quenelles. Et c'est à ce moment-là que la dame qui était assise derrière moi s'est levée, est allée dans leur direction et leur a demandé d'arrêter. Elle leur a dit « Je suis juive, mon père a été déporté et mort à Auschwitz. C'est un geste antisémite que vous faites là, je vous demande de vous arrêter. »
Une intervention qui ne calme pas les trois hommes, bien au contraire.
Ils ont rigolé, ils ont continué à faire des quenelles. Il y en a un qui lui a dit qu'il avait également été à Auschwitz et je l'ai entendu dire que ça n'existait pas. Et le plus virulent s'est mis au milieu du couloir et s'est mis à hurler « Dégage la vieille, dégage la vieille, dégage la vieille ».
Une situation intolérable pour Mario Stasi, le président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Il demande une réaction ferme de la justice et du pouvoir politique.
La banalisation sous forme de jeu ou de provocation de gestes tels que la quenelle, qui fait directement référence au nazisme, l'urgence c'est de rappeler que c'est un délit, il faut sanctionner fort et peut-être jusqu'à l'indignité nationale.
Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête. Elle est confiée à la brigade des réseaux franciliens.
Et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a indiqué sur Twitter que les responsables devaient répondre de leurs actes abjects. À trois jours donc de Noël, la mobilisation des Gilets jaunes a fortement baissé samedi, de près de moitié par rapport à la semaine précédente, avec près de 40 000 participants dans les différents défilés, barrages routiers et blocages aux frontières. 59 personnes ont été placées en garde à vue à Paris samedi, dont 4 mineurs. Éric Drouet, l'un des initiateurs des Gilets jaunes, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de porter une arme. Interpellé samedi, il sera jugé le 5 juin prochain pour port d'armes prohibées de catégorie D, après avoir été retrouvé avec une sorte de matraque sur lui, et pour participation à un groupement formé en vue de violence ou de dégradation. En visite au Tchad, Emmanuel Macron a déclaré « C'est maintenant l'ordre qui doit régner, le calme et la concorde. Notre pays a besoin de ça, il faut apaiser les divisions. » Après ce sixième week-end de mobilisation des Gilets jaunes face aux violences persistantes, la stratégie de fermeté de l'exécutif est peut-être une voie de sortie de crise pour le gouvernement, mais ce n'est pas sans risque, selon le sociologue Jean-François Amadieu.
Lorsqu'il y a moins de monde dans un mouvement, il est tentant pour l'exécutif de passer au stade de la pénalisation des poursuites et puis de stigmatiser ceux qui continuent. Bon, il faut dire qu'il y a eu des dérapages, bien sûr, la quenelle, et donc il est certain que lorsqu'un mouvement a perdu perdu de son ampleur. Les contre-attaques de l'exécutif sur un thème finalement classique qui est le rétablissement de l'ordre républicain et puis les attaques contre la République, évidemment, sont plus efficaces dans une période comme celle-ci. Toute la ligne, évidemment, de Crète, c'est d'éviter une remobilisation. Et là où on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, c'est comment les réseaux sociaux vont jouer aujourd'hui dans le cadre d'une remobilisation éventuelle s'il y a des sanctions contre tel ou tel leader gilet jaune.
Le sociologue Jean-François Amadieu, joint par Laura Dulieu. Après 8 ans de cavale, le djihadiste Peter Chérif est de nouveau aux mains de l'antiterrorisme français. Interpellé à son arrivée hier en France en provenance de Djibouti, ce Français de 36 ans, proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, fait valoir pour l'instant son droit au silence, selon une source proche du dossier.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Indonésie après le tsunami qui a frappé samedi soir les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java.
Rasant des centaines de bâtiments, ce tsunami est survenu après l'éruption d'un volcan, 281 morts, plus d'un millier de blessés. Les secouristes qui cherchent encore des survivants et les autorités s'attendent à ce que ce bilan empire dans les prochaines heures, Bertrand Galichet.
Les sauveteurs craignent de découvrir de nouvelles victimes au milieu du chaos qui règne sur place. Pour l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, c'est même une certitude, car la vague qui a submergé les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java a balayé des centaines de bâtiments. Toutes ces ruines n'ont pas pu être fouillées en quelques heures, malgré les efforts des secouristes. Dans ces amas de tôles, de gravats, de toitures arrachées et d'arbres déracinés, il reste sans aucun doute d'autres corps. La région est très peuplée et attire beaucoup de touristes. Pour l'instant, selon le Quai d'Orsay, aucun Français ne figure parmi les victimes. Les recherches, qui devraient durer au moins une semaine, sont rendues plus difficiles encore par les débris en tout genre que la vague géante a déposés partout où elle s'est répandue. Et les conditions météo, avec du vent et de la pluie, ont compliqué les opérations de sauvetage. Plusieurs ONG humanitaires ont annoncé l'envoi d'équipes sur place et les sauveteurs indonésiens installent des bâches pour les survivants. Les équipes de secours s'inquiètent aussi d'une possible récidive du tsunami, car le volcan Anak Krakatoa, d'où il est parti, est déstabilisé depuis qu'une éruption, sans doute plus forte que les autres, a fait tomber un flanc du volcan situé dans le détroit de la Sonde entre Java et Sumatra.
Des parcs nationaux fermés aux États-Unis, c'est l'une des premières conséquences du shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales après l'échec des tractations budgétaires au Congrès et sur le financement du mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Ce blocage partiel a démarré samedi matin. Il pourrait se poursuivre jusqu'en janvier, selon un responsable de la Maison-Blanche. Toujours aux États-Unis, le Pentagone annonce la signature de l'ordre de retrait des troupes américaines de Syrie, un des engagements que Donald Trump veut lent et extrêmement coordonné avec la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan m'assure qu'il va éliminer ce qui reste du groupe État islamique en Syrie. Nos troupes rentrent à la maison, annonce Donald Trump sur Twitter. Un retrait qui a entraîné la semaine dernière la démission du chef du Pentagone, James Mattis. Il sera remplacé par son adjoint Patrick Shanahan dès le 1er janvier. On y revient dans la revue de presse internationale d'Adrien Toffolé après le journal de 7h30. La politique du président des États-Unis dénonce au cœur même de Washington, la capitale fédérale, dans un hôtel pas tout à fait comme les autres. Il a ouvert en septembre dernier à quelques blocs de la Maison-Blanche et du Capitole. L'établissement veut défendre des valeurs progressistes et humanistes et attirer les activistes de la gauche américaine, à tel point que le Eaton Hotel, c'est son nom, a été rebaptisé l'hôtel anti-Trump, Grégory Phillips.
Dans cette bibliothèque, vous ne trouverez que des livres radicaux et progressistes. C'est Catherine Lowe, la fondatrice du Eaton Hotel, qui nous fait la visite et qui décrit. Ici, une sculpture faite de plusieurs écrans de télévision qui parle de l'histoire politique du pays et de la situation actuelle. Et puis, tout autour de nous, des gens en réunion. C'est ici, par exemple, que se retrouvent les organisateurs de la prochaine marche des femmes à DC. L'hôtel de 209 chambres a donc ouvert en septembre. Il y a un restaurant, un café, même un petit cinéma, un toit-terrasse, des salles de réunion. Et ce n'est pas un hasard si l'établissement est installé au cœur de la capitale fédérale, à deux pas de la Maison-Blanche. Cette localisation est parfaite, reprend la directrice. Ça donne plus d'écho à notre programme. Les valeurs qu'on défend, c'est égalité de genre, de sexe et de couleur de peau, défense aussi de l'environnement et des immigrés. Donc si parce qu'on défend ces idées, on nous appelle l'hôtel anti-Trump, eh bien ça. Dans cet hôtel, pas de chambre à moins de $200. On verra dans quelques mois si le modèle économique fonctionne. Et puis pour ceux qui ne partagent pas les idées défendues par cet établissement, pas très loin, sur Pennsylvania Avenue, se trouve le Trump Hotel qui appartient au président.
Grégory Philips à Washington pour France Culture. En Allemagne, le scandale interne au magazine Der Spiegel prend de l'ampleur. Le titre vient de porter plainte contre un de ses journalistes vedettes accusés de falsification. Les précisions à Berlin de Nathalie Versieux.
Klaas Relotius ne s'est pas contenté d'inventer les personnages de nombreux de ses reportages. Des histoires qui lui ont valu de nombreux prix prestigieux. Le journaliste aurait aussi lancé auprès de ses lecteurs des collectes d'argent au bénéfice d'enfants syriens qu'il assurait avoir rencontrés à la rue en Turquie. L'argent récolté à l'issue d'une campagne mail auprès de ses lecteurs aurait été versé sur le compte personnel du reporter. Dimanche, le Spiegel a porté plainte pour détournement de fonds contre son ancien salarié vedette. Tous les documents en notre possession seront remis aux enquêteurs, assure la rédaction dans un communiqué. L'ampleur du scandale met en question le système de contrôle interne de la rédaction du magazine.
Au Mali, après la mort d'un chef djihadiste le mois dernier, le gouvernement lance aujourd'hui un programme pour désarmer les combattants du centre du pays, djihadistes et milices communautaires. Coralie Pierret.
Désarmer les chasseurs traditionnels, c'est le nouveau chantier du gouvernement malien. Si leur présence est ancestrale dans les régions du centre du Mali, leur regroupement en milices organisées et lourdement armées est plus récent. L'ONU les accuse de cibler une communauté, une ethnie, celle des Peuls, de détruire, piller, incendier leurs villages et tuer parfois à bout portant leurs habitants. En décembre, les autorités maliennes ont arrêté plusieurs chasseurs, une première. Jusque-là, des observateurs soupçonnaient l'État de les soutenir. Aujourd'hui, dans le centre, tous les indicateurs sécuritaires sont au rouge. En plus de ces milices communautaires, les djihadistes commettent toujours des exactions. Dès ce matin, le programme de désarmement leur sera ouvert. Avec cette main tendue, les autorités souhaitent profiter de leur désorganisation après la mort annoncée de leur chef, Amadoune Koufa, tué dans un raid de l'armée française. Mais une fois les armes déposées, que deviendront ces ex-djihadistes? L'État malien envisage-t-il de les intégrer dans l'armée? La question reste ouverte.
Coralie Pierret à Bamako pour France Culture. Le temps de ce lundi 24 décembre, pluvieux de la Bretagne au centre-est, davantage d'éclaircies dans le reste du pays, des nuages aussi. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 11 degrés de l'intérieur des terres vers les côtes, jusqu'à 15 près de la Méditerranée, Guillaume Erner.